Vous écoutez France Culture.
Alain Winston, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Emmanuel Fournier, qui publie Philosophie infinitive aux éditions de l'Éclat. Ne faut-il pas revenir sur notre façon même de dire et de penser ce qui est, résister aux noms trop bavards, trop savants et trop pressés d'ordonner, recommencer avec des mots plus tendres, plus attentifs à nos visées, confier nos questions au Verbe, toujours disposé à nous écouter et à chercher ce qui nous inquiète pour peu qu'on les laisse aller nus, sans bagages et sans apprêt. Vous êtes prof de philo, Emmanuel Fournier, mais vous ne vous en êtes pas tenu là. Vous avez fait des études de médecine, d'informatique et de neurosciences. Il y a 2 ans, vous avez publié aux presses universitaires de France « Creuser la cervelle, variation sur l'idée de cerveau ». Ce n'est pas le seul livre que vous ayez publié. Il vous arrive de dessiner, comme dans 36 morceaux, chez Éric Pesty en 2005, ou dans le catalogue des mers, chez Corduriès en 2007. Et sous ce titre, vous aviez fait, catalogue des mers, une exposition au CIPM de Marseille, c'était en 2007. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la poésie qu'on a découvert, nous, le philosophe, et le poète Emmanuel Fournier. C'était dans « Surpris par la nuit » que j'enregistrais à l'époque au centre Georges Pompidou en 2002, où vous accompagniez Ryoko Sakiguchi. Elle vous avait invité au moment où elle publiait « Calque » chez POL et « Cassiope PK » au CIPM. Depuis, on l'a reçue une nouvelle fois dans cette émission lorsqu'elle a publié « Chronique japonaise ». Ce n'est pas un hasard, chez POL. Et vous, vous étiez, si je peux dire, contenté de lire dans cette émission. Vous n'aviez pas parlé. Vous aviez lu des extraits de « Croire, devoir, penser », le livre par lequel votre aventure philosophique a commencé. Vous l'avez publié, d'ailleurs, ce livre, il y a déjà quelques années, en 1996, aux éditions de l'Éclat. Et comme le titre l'indique, vous aviez déjà, dès 1996, décidé de confier les questions philosophiques au Verbe.
Bonsoir.
Vous voyez, je ne pose pas de questions.
Les verbes, oui, parce que on peut considérer que tout va bien avec la langue, avec notre langue, et peut-être même trop bien. Mais si tout allait si bien que ça, se poserait-on autant de questions que nous nous en posons? C'est un peu de cette réflexion qu'est partie ces travaux sur la langue. Après tout, si c'est de réponses, d'assurances ou de certitudes dont nous avons besoin, la langue a des mots pour cela, la grammaire. Nous pouvons considérer que les noms nous donnent les êtres et les choses tels qu'ils sont, mais justement, ne le disent-ils pas trop ? Faute de laisser s'exprimer ce qui demanderait plus de retenue. Ne cachent-ils pas quelque part, quelque peu, ce qu'ils énoncent ? Ne créent-ils pas même, peut-être de toutes pièces, ce dont ils parlent ? On voudrait pouvoir y penser d'une manière qui ne nous installe pas tout de suite dans une solution arrêtée. D'une certaine manière, il fallait une bonne dose d'optimisme pour imaginer que les noms allaient saisir les choses telles qu'elles sont et qu'on allait pouvoir utiliser le langage comme un instrument d'objectivité. En lien avec cette conception du langage ordinaire, nous avons pris l'habitude de transformer notre monde en choses, en objets, de réifier les phénomènes sous des substantifs, mais peut-être qu'ainsi nous les empêchons d'être eux-mêmes. Les noms finissent par nous bloquer, chargés qui sont de représenter des idées arrêtées. On croit avoir tout dit quand on a dit le nom, mais on oublie de chérir et d'aimer. Bien entendu, les noms n'y sont pour rien. Ils n'ont pas de faute à se reprocher, ils n'ont pas commis de péché. La grammaire qu'on nous a inculquée ou l'interprétation de la grammaire dont nous nous servons pour raisonner, qui nous font voir les choses de cette manière-là. Mais les difficultés, aussitôt que nous mettons à penser à quelque chose, c'est notre tendance à nous satisfaire du peu que nous avons fait, des premiers mots que nous avons trouvés pour cela. Et ces premiers mots venus sont souvent convenus. Et le peu qu'on est heureux d'avoir arraché à l'informe est certainement un appui pour s'élancer. Mais c'est aussi, assez vite, cela devient aussi un lit où on peut s'endormir ou une prison dont on ne voit même plus les murs.
C'est pas le cas avec le verbe.
Voilà, la langue est faite pour cela, pour dire des choses déterminées. Mais le fait même que la langue soit si bien organisée laisse entendre qu'elle a autre chose à nous dire, que les mots peut-être ont autre chose à nous dire et que nous avons d'autres questions à nous poser. Et c'est à cette aspiration que cherche à répondre la langue infinitive. Il s'agit un peu d'ouvrir grand la fenêtre, de faire entrer le vent et de nous confier à une situation d'incertitude et d'indétermination. Dans la langue infinitive, on ne marque pas les substantifs, ni et donc pas les sujets, ni leurs attributs, leurs substituts, les pronoms, les articles. Mmh. Les verbes se mettent au mode impersonnel.
C'est ce que vous appelez « aller nu ».
Aller nu.
Sans après.
La langue infinitive, les verbes se mettent au mode impersonnel, les verbes portent notre action de pensée. On peut dire que toute pensée, ou penser est à l'infinitif, le verbe penser est à l'infinitif, se fait à l'infinitif. Sinon, une pensée n'est que dépouille. Et pour pouvoir se mettre dans cette situation d'incertitude, il est nécessaire de bousculer un peu la langue, justement, d'essayer de la faire boiter un peu.
De faire des exclusions.
Faire des exclusions. Il s'agit de ne pas marquer sur tous les sujets. Ce n'est pas nécessairement exclure, ni bien sûr éliminer le sujet. Ce serait trop facile si on créait une chose en la disant et si on l'éliminait en ne la disant pas. Il s'agit au contraire peut-être d'essayer d'approcher le sujet d'une autre façon. C'est-à-dire en lui laissant de la place, en laissant la place vacante, essayer de l'approcher sans forcément chercher à le saisir. C'est-à-dire en essayant de le provoquer, peut-être, de s'investir dans la langue, plutôt qu'en essayant de le posséder ou d'avoir un pouvoir sur lui, ou de le marquer.
Donc il faut l'approcher sur un mode nécessairement impersonnel.
C'est l'essai qui est fait ici, c'est de se dire qu'on va essayer de laisser être les choses, les laisser échapper aussi, leur laisser la possibilité de venir ou leur laisser la possibilité d'échapper, qui a peut-être quelque chose à voir avec aimer ou respecter. Et c'est se placer dans ce processus. Ça ne veut pas dire, bien sûr, éliminer les sujets, ni les noms. On se place, on essaie de travailler avec les verbes dans l'espace des êtres, des noms.
Pas d'adjectif, pas de substantif.
D'adjectif, pas de substantif. Pour se concentrer sur l'action, le mouvement, tout est mis en mouvement de cette manière-là. La réification devient réifiée. Et on essaie d'analyser de nouveau, d'interroger, de reprendre nos questions avec cette langue neuve d'une façon différente.
Votre projet, Emmanuel Fournier, est philosophique ou grammatical ?
Il est philosophique, puisqu'il s'agit d'interroger d'abord des questions de vie. Bien entendu, ces questions de vie sont toujours éminemment personnelles, quelque part. Mais la pudeur nous retient aussi de dire « je » ou « tu ». On ne voudrait pas non plus dire « nous » ou « le monde ». Ça serait peut-être présomptueux ou ce serait forcer la main d'autrui plus qu'on ne voudrait. Encore une fois, on préfère laisser la place ouverte, ouvrir. C'est cela.
Par rapport à croire, devoir, penser, donc le livre précédent, celui qui paraît aujourd'hui, Philosophie infinitive, qui est en fait un coffret avec plusieurs volumes, marque une évolution vers la question de l'être, qui semble aujourd'hui vous hanter, alors que ça n'était pas du tout le cas au départ de l'aventure.
C'est vrai, cette question avait été évitée et contournée dans Croire, Devoir, Penser, parce que la question de l'être, telle qu'elle a été formulée par la philosophie, quelque part pouvait paraître caduque et sans objet à l'infinitif. Les verbes nous projettent en effet du côté du mouvement plutôt que de l'état. Mais c'était peut-être ne pas faire suffisamment confiance à la langue. Et après tout, il n'y a aucune raison d'exclure le verbe « être » de notre questionnement. Comment être sans se faire être, c'est-à-dire sans faire de soi un être, une chose? Comment rétablir le mouvement? Et à la fois, comment être sans se fabriquer? Comment rétablir la possibilité d'un surgissement? Et donc, la question de l'être demande à être abordée à l'infinitif et peut être abordée à l'infinitif de la même manière qu'elle le demande aux autres philosophies. Et peut-être que le verbe être est du côté du mouvement aussi. Être est du côté du mouvement, de l'action, plutôt que simple verbe d'état, comme le dit la grammaire. Et cela n'a peut-être pas été suffisamment exploré. On peut s'interroger sur ce qui est, sur ce que nous sommes, sur ce qu'il faut faire, sur ce que nous devons être, sans nécessairement mettre des noms là-dessus. Et bien des questions que nous nous posons, ou nous croyons qu'il était indispensable de nommer les choses dont nous parlions, se posent peut-être même avec une vigueur revivifiée, sans nommer les noms, sans nommer les êtres, sans les séparer non plus, sans les distinguer.
Ce n'est pas une ontologie donc, que vous proposez?
C'est plutôt une étude de la façon dont on pourrait créer, fabriquer une ontologie, comment on ontologiserait, pourquoi on ontologise. On se placerait du côté du verbe sur cette question-là, là aussi.
C'est une façon de procéder qui s'adresse à chacun, dites-vous, qui instaure un rapport à soi nouveau, intime et privé.
Oui, dans la mesure où justement la place est laissée, où le verbe n'explicite pas, le verbe laissé à nu, à l'infinitif, aux modes impersonnels, l'infinitif mais aussi les autres modes impersonnels, le gérondif, le participe. Le sujet n'est pas spécifié, n'est pas explicité, il n'est pas déterminé. et l'objet, la proposition infinitive, philosophante, ne dit pas comment la prendre, ne dit pas comment la penser. On est dans une espèce d'ambiguïté qui oblige le lecteur, le sujet, à réagir, à se placer, à le comprendre. Il y a une possibilité de contradiction, évidemment, une nécessité d'ironie aussi, et d'humour, dans la mesure où ce que l'on entend, ce qu'on lit littéralement, n'a peut-être rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer, avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
Vous dites bien d'ailleurs, Emmanuel Fournier, dans l'avant-propos du livre 1, qui a pour titre « Penser à être », que c'est une autre façon de philosopher qui est ici à l'essai.
Oui. Une autre façon qui, évidemment, qui n'exclut pas les autres, qui n'élimine pas les autres, de même qu'une variation en musique n'est pas destinée à effacer les autres. C'est plutôt une sorte de chemin de traverse pour essayer de trouver un peu d'air quand les chemins conceptuels à travers les noms sont un peu trop pesants, trop embarrassés ou trop décalés de nos préoccupations ordinaires. Le sujet se trouve réinvesti dans la proposition infinitive, dans le vif de la langue, quelque part. Et évidemment, cette façon différente, cette manière différente d'être et d'aller, qui n'est pas destinée à exclure les autres, est peut-être une façon de les relire aussi et de les revoir.
Vous parliez de musique,
oui,
il y a un instant, et les quatre volumes qui composent cette philosophie infinitive, vous les comparez à une sorte de quatuor.
Oui, il y a des questions d'architecture qui m'ont permis d'avancer aussi, des questions de forme par rapport à l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, « Croire, devoir, penser », et qui tiennent à une difficulté inhérente au projet, peut-être à toute philosophie. C'est la contradiction qu'il y a quelque part entre le souci d'essayer de donner une forme et le fait que toute agencement de nos vies, ordonnancement d'un livre de philosophie apparaissent contradictoires avec le projet d'une recherche libre qui ne serait pas tenue de dire ce qui est, de faire la leçon et de dire ce que nous devons faire. Le livre a sa première et sa dernière page, nos vies aussi, et nous sommes néanmoins tenus de donner une forme à cette affaire. Et d'en croire devoir penser, ces questions n'avaient pas été complètement résolues d'une certaine manière. Et il restait une tension entre la table des matières qui essayait de donner un ordre à l'ensemble du livre et les chapitres et les paragraphes qui avaient été laissés dans un savant désordre pour respecter justement, éviter les systèmes et respecter une certaine fluidité et favoriser les combinaisons de nos pensées en verbes. Et là, en fait, il faut que nous arrivions d'une certaine manière à ce que la forme du livre laisse entendre qu'elle aurait pu être autre. Et c'est pourquoi il était important que ce livre ne soit pas un gros livre, pas une forteresse, pas imprenable, pas un château qui en impose aux arrivants et qui dise justement ce qu'il est et ce qui est. Mais plutôt quatre petits livres, quatre cabanes, je dis, quatre...
Tout petits.
Petits.
Une centaine de pages chacun.
Une centaine de pages chacun. Chacun fait de chapitres, on peut dire, ou de pièces qui font une page recto verso, avec des variations dans la composition de chacun des deux livres, qui ont des choses semblables, mais surtout quatre petits livres entre lesquels on puisse venir s'abriter un instant, se reposer peut-être, et aller de l'un à l'autre.
Les verbes, ça serait les instruments de musique.
Oui.
Et nous, lecteurs, nous serions les interprètes.
Oui. Ce sont des livres qui sont conçus pour les verbes, comme si les verbes étaient des instruments qui ne disent pas comment les jouer, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc pour être, pour croire, pour pensées, pour vivre, à nous de les interpréter et de varier nos interprétations aussi de ces partitions, de ces chemins qui sont donnés, de ces chemins de traverse qui sont ouverts.
Mmh. Souvent, vous parlez de transcription, notamment dans le livre 4, qui a pour titre « Penser à vivre ». Des transcriptions de Hölderlin, de Paul Celan, de Samuel Beckett, de Michel Foucault et d'autres.
Oui, transcription, parce que c'est une façon, la transcription, de prendre aussi une certaine liberté, de trouver une possibilité de nous déplacer nous-mêmes et de nous dépasser peut-être par rapport à ce qui nous est donné, ce qui est, si tant est qu'il y ait quoi que ce soit, ou une partition qui nous est offerte. Dans la transcription, évidemment, les moyens qu'on utilise ou les instruments pour lesquels on compose à nouveau imposent une réalité qui va être différente. Et de cette manière, on n'élimine pas cette réalité, mais on lui donne des dimensions nouvelles. On ouvre à nouveau des possibilités d'interrogation.
Hmm. Est-ce que l'architecture des quatre cabanes, pour reprendre votre mot, répond à un plan prédéterminé, bien précis ?
Le plan n'était pas prédéterminé. Le plan s'est construit au fur et à mesure avec les verbes qui ont voulu s'associer dans chacun des quatre livres. Le premier, pensait à être, alterne et entrelace deux brins. L'auxiliaire être, c'est la question de ce que nous sommes. Et l'autre auxiliaire, même si la grammaire ne le reconnaît pas comme tel, le verbe dire, la grammaire ne le reconnaît pas comme tel, tellement cela va de soi, peut-être pour elle, et tellement il est à son fondement. Mais être et dire vont ensemble, et ce sont deux brins qui s'entrelacent en trois parties. Cela s'est construit de cette manière-là, en écoutant ces verbes et ce qu'ils avaient à dire et à proposer dans leur combinaison. Le deuxième livre, Penser à croire, utilise des verbes ou met en œuvre des verbes qu'on a tendance à considérer comme des semi-auxiliaires et dont l'importance en philosophie a été soulignée par des philosophes comme Wittgenstein ou Nietzsche. Les verbes, et d'autres avant eux bien sûr, douter, croire, et puis savoir, devoir, vouloir, pouvoir, et tout ce dont ils tiennent lieu sur la volonté, le devoir, la nécessité, le doute, la croyance, la foi, qui sont repris, réanalysés de cette manière-là.
Chacun des verbes peut se combiner.
Et voilà, et les verbes se combinent, et tout cela peut se combiner, croire, vouloir, vouloir, croire, et c'est des champs qui s'ouvrent à chaque fois.
Le livre 3, c'est Penser à penser. Là, il y a 5 parties. 3 de 12 et 2 de 9.
Le livre 3 était une grande friche pendant longtemps. Et c'est une lecture fine d'Éric Pesty qui m'a engagé à lui donner une structure aussi. Mais au fond, c'était une friche qui se promène dans des questions qui sont écrites ou qui se composent pour le verbe penser, pour les verbes chercher, changer, s'inquiéter, libérer, se libérer. Tout ça ne sont pas des synonymes, bien entendu, mais sont des verbes qui vont ensemble et qui se croisent un peu dans tous les sens et qui donnent lieu à beaucoup, beaucoup d'interrogations.
Quant au livre 4,
alors, les derniers... Le terrain a été dégagé, surtout les auxiliaires de la pensée, être, dire, les semi-auxiliaires, vouloir, pouvoir, croire, penser, se libérer... On arrive aux questions de vie, mais questions de vivre, en fait, qui étaient déjà incluses dans l'être, évidemment, depuis le départ. Et les deux livres sont très proches.
Vivre, donc c'est penser à vivre.
Penser à vivre, avec les questions qui ont trait à la question de finir, vivre, finir. On commence, le livre commence d'ailleurs par là. C'est une question qui est abordée déjà dès le livre 3, c'est la tentation pour la pensée d'arriver à une solution définitive, comme si on pouvait arriver à une solution où l'on n'aurait plus à penser. Et pourtant on continue, parce que finalement, ce qu'on peut terminer, ce qu'on peut finir, ne sont que des choses ou des pensées qui sont finissables. En chemin, on a laissé s'échapper ou aidé à s'échapper beaucoup de choses. Et on retrouve là ce qu'on abordait tout à l'heure à propos du verbe aimer, dans la mesure où on pourrait considérer qu'aimer n'est pas saisir, mais qu'on n'a peut-être jamais fini le travail. Et ce doit être ça, aimer, ne jamais en finir. Mais aussi ça, vivre, peut-être, ne jamais en finir, ou être, ou croire, ou penser, ne jamais en finir. On retrouve là vraiment l'apport de l'infinitif, ou l'ouverture que donne l'infinitif.
On pourrait dire que philosopher, c'est penser à vivre et non pas apprendre à mourir, bien qu'on retrouve des infinitifs.
Oui, penser à vivre, voilà.
Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des verbes qui reviennent plus souvent que d'autres. J'ai noté vouloir, pouvoir, devoir.
Oui, ce sont des verbes qui sont des auxiliaires, des semi-auxiliaires, que nous employons déjà dans notre langue sans même nous en rendre compte, mais qui déterminent notre façon de penser. Et en l'occurrence, ils sont devenus des instruments, des parties, des livres aussi, des objets d'études particuliers pour reprendre toutes nos inquiétudes, toutes les questions que nous nous posons à propos de la volonté, des nécessités, des contraintes qui s'exercent sur nous, des libertés que nous pouvons trouver, et non pas des libertés que nous pourrions posséder et acquérir de manière définitive. Et donc non seulement ces verbes sont des instruments et des parties entières des livres, mais ce sont des outils qui interviennent dans la plupart des problématiques ou des questions que nous nous posons, des inquiétudes que nous nous forgeons.
Vous les appelez des verbes modaux, c'est-à-dire des verbes qui ont une particularité assez curieuse que les grammairiens anciens appelaient défectueux de la chose.
L'infinitif a été considéré par les grammairiens comme un mode incomplet, inexplicite, ne pouvant pas être utilisé en tant que tel, et parce qu'il ne porte pas de marque du temps de la personne lui-même déjà. Donc tous les verbes qui se trouvent à l'infinitif ou les propositions infinitives sont non recevables d'une certaine manière par la grammaire. Et là on montre au contraire que ces verbes vont pouvoir porter une pensée et la développer, la laisser s'épanouir dans des directions très différentes.
Donc les verbes vides sont les verbes de la philosophie même.
En tout cas, ils travaillent intensément dans notre philosophie, mais aussi dans les questions que nous nous posons, en dehors des problématiques proprement philosophiques, questions de vie.
Est-ce que les infinitifs peuvent être des impératifs?
Bien sûr, les infinitifs peuvent être des impératifs. On peut leur faire jouer ce rôle. Et ce serait une erreur de lire les infinitifs de cette manière-là. Les infinitifs ouvrent d'abord des possibilités d'interrogation. Et donc, ils ouvrent des chemins, ils ouvrent un certain tumulte, quelque part, un bouillonnement. Les grammairiens disent qu'on peut essayer de retrouver dans l'infinitif les différentes spécificités des autres modes. L'indicatif, quand on dit penser, ça serait indiquer penser plutôt que de dire je pense. On pourrait retrouver l'impératif en disant ordonner de penser. Mais l'infinitif lui-même n'a pas besoin nécessairement de porter ses marques. Il demande à être interprété et il porte lui-même une certaine pensée flottante à la surface des choses, à la surface des pensées.
Aller par verbe, est-ce que c'est prendre le plus court chemin vers la solution définitive à nos problèmes qu'on soumet souvent à la philosophie?
Au contraire, c'est croire là que, ou en tout cas c'est prendre une position qui considère que nos problèmes ne demandent peut-être pas à avoir une solution définitive, et l'infinitif se place du côté du non-fini, du non-achevé, de l'indéfini, de l'indéterminé, et plutôt là pour provoquer une pensée, solliciter une pensée en acte, c'est mettre des verbes en action, et non pas proposer une solution arrêtée, définitive, sur ce qui est ou sur ce que nous devons penser et sur ce que nous devons faire.
Donc ce n'est pas chercher la vérité, mais travailler pour l'incertain.
Pas travailler pour l'incertain, mais travailler avec l'incertain, en faire une chance de cet inachèvement en nous, de cette incertitude, pour penser éventuellement, pour trouver des solutions contingentes aux problèmes qui se posent pour nous, mais pas des solutions définitives qui vaudraient de façon universelle. C'est relancer la pensée.
Être travaillé par l'indétermination et l'inachèvement.
Et l'inachèvement, en faire une chance de notre côté, de cette non-finitude, non-finition, de cet inachèvement, de cet infini, infinitif.
Philosophie infinitive d'Emmanuel Fournier aux éditions de l'Éclat. Du jour au lendemain, Kevin Le Bars, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.